Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
La chronique juridique de Nada Boumefta.
Et on rejoint l'avocate en droit criminel et protection de la jeunesse, Nada Boumefta. Bonjour, Nada.
Bonjour, Vincent. Belle initiative, les chiens. On devrait les appliquer en domaine de la justice aussi. Je pense que ça aiderait.
Oui, et Nada, hier, à la toute fin de ta chronique, tombait cette nouvelle. T'as manqué de peu, mais le SPVM qui a procédé à l'arrestation du présumé meurtrier de Meriem Boundaoui.
Oui, alors quand même une grosse nouvelle, parce qu'on en parlait déjà un peu la semaine dernière sur la présence policière plus accrue, une plus grande visibilité, un travail évidemment très fort et continu de la part du SPVM pour trouver les individus qui auraient tiré nos jeunes. Rappelons qu'il y en a eu plusieurs malheureusement dans la dernière année, dont cette jeune-là, Myriam, qui a reçu une balle perdue puisqu'elle n'était pas la cible dans cette histoire-là.
Et non seulement pas la cible, mais elle n'est pas, Nada, impliquée d'aucune façon avec cette histoire-là. Vraiment une victime là, totalement innocente.
Absolument, victime collatérale de donc possession et usage d'armes à feu dans nos rues. Rappelons également que c'est un événement qui s'est déroulé de plein jour dans nos rues. Alors c'est assez, désolant et vraiment triste, c'est clair. Toutes nos condoléances à la famille.
Oui, on parle d'un individu de 26 ans, qu'on dit judiciarisé, donc connu des milieux policiers. Il y a des causes pendantes en cours. Donc, on se demande encore comment cet individu-là s'est retrouvé à avoir accès à des armes, pourquoi il était à l'extérieur s'il est dangereux. Est-ce que le système semble avoir failli là, dans le dossier de cet individu?
C'est ce que je questionne. J'aimerais d'abord souligner là, qu'il s'agit d'un individu dans la mi-vingtaine. Donc, on parle pas d'un adolescent qui est en possession d'armes à feu. Ce sont des rumeurs qu'on entend souvent en pensant que ce sont eux qui ont les armes en ce moment. Mais comme tu l'as dit, un individu qui est judiciarisé, qui l'a été dans le passé pour des causes d'armes à feu, qui normalement implique en droit criminel l'imposition de conditions de ne pas en posséder. Et quand on a été déclaré coupable de gestes comme ça, de crimes contre la personne, de crimes impliquant des armes à feu, normalement, il y a une obligation du juge d'ordonner ce qu'on appelle une interdiction d'être en possession pendant 10 ans de type d'armes à feu. Et évidemment, partout dans le territoire, même sans avoir ces conditions-là, c'est illégal de posséder des armes qui sont illégales. Donc, déjà plusieurs couches et des questionnements, effectivement, Vincent, sur comment ça se fait que cet individu-là qui aurait été sous la mire du SPVM, suivi et enquêté par ceux-ci, a pu se retrouver avec une arme et la dégainer comme ça dans nos rues. Je pense qu'il y a un questionnement à y avoir, autant sur la remise en liberté de cet individu-là et les conditions qui sont imposées, mais aussi l'impunité et l'effet dissuasif que devrait avoir notre système juridique sur ce type d'individu-là.
Je comprends, Nada, qui est accusé de meurtre au premier degré. Donc, meurtre prémédité. Comment on peut préméditer si on s'est trompé de cible?
C'est une excellente question, Vincent. C'est sûr que la préméditation, ça ajoute un élément à démontrer de la part de la poursuite devant les tribunaux. Rappelons que ce doit être un élément démontré hors de tout doute raisonnable, d'où le défi d'accuser, de mener à terme des accusations de meurtre premier degré devant les tribunaux. Mais même si c'est une erreur, il y avait quand même cette intention-là donc de tirer et ce sera partie de la preuve finalement de la poursuite qui vont venir démontrer ça, venir démontrer même une possibilité de complot. On parle de d'autres individus qui seraient sous enquête présentement, qui auraient été impliqués, même si ce ne sont pas eux qui ont tiré la balle, auraient été impliqués dans cette affaire-là. Alors oui, même si c'est une victime collatérale, on peut parler de meurtre premier degré.
Toi qui connais bien le milieu des jeunes, tu as affaire avec les policiers aussi. Dans ce genre d'histoire-là, on avait l'impression depuis longtemps là, que ça allait arriver, là, ce genre d'incident-là. Malheureusement, ça va peut-être se multiplier aussi. Qu'est-ce que tu donnes comme message?
Je pense qu'on en a déjà un peu traité, Vincent, mais je pense que c'est toujours important de ramener ça sur la table. Quand on parle de projets de la part du SPVM, d'être plus visible dans les rues, de vouloir obtenir plus d'informations aussi des citoyens qui peuvent avoir été témoins de gestes Et là, justement, avant qu'on rentre en onde, il y a un article sur la suite de l'enquête dans cette affaire-là qui est sorti à l'effet que les policiers faisaient du ratissage dans un parc à la recherche de l'arme qui aurait été utilisée. Donc, potentiellement, des témoins visuels qui auraient vu quelqu'un lancer cette arme-là, la cacher dans ce parc-là. On est quand même près de un an plus tard et on cherche encore l'arme. Donc, peut-être que si ça avait été une information obtenue plus tôt, les policiers auraient peut-être pu avoir accès à une scène plus fraîche. Donc, tous ces questionnements-là, je pense, doivent être soulevés de la part du SPVM. Mais tout revient à ce lien de confiance-là que les policiers doivent bâtir, en fait, rebâtir avec les citoyens. Et ce, de long et en large, que ce soit avec nos jeunes et les parents de ces jeunes-là. Donc, le message que j'envoie aux jeunes, c'est de connaître leurs droits, évidemment, savoir les appliquer, mais aussi aux policiers de se mettre peut-être plus à niveau de la population, peut-être se promener encore une fois sans arme à feu, apprendre à connaître les jeunes et cesser aussi d'avoir ce type de préjugé-là que ce sont les jeunes qui sont des criminels dans nos rues. On le voit ici, malheureusement, ont été plutôt des victimes de ces actes criminels.
Nada, on a surveillé le dossier de l'affaire Bissonnette, le tireur de la mosquée de Québec, qui s'est poursuivi jusqu'en Cour suprême là, sur le dossier des peines minimales consécutives là, pour des cas de prison à vie pour additionner des 25 ans ou pas. On se souvient à quel point ça a été une question complexe au niveau judiciaire. Et cette décision-là, on savait qu'elle allait avoir des impacts dans de nombreux autres dossiers. Et c'est le cas en ce moment, particulièrement en Alberta.
Exactement. Donc, 4 dossiers qui ont été menés en appel de 4 meurtriers qui ont été déclarés coupables, chacun dans leur cas particulier. Eux ont reçu des sentences finalement additionnées qui, au final, ont été déclarées donc inconstitutionnelles dans l'affaire Bissonnette. On ne peut pas donc imposer une sentence à quelqu'un où il ne pourra pas demander de liberté conditionnelle dépassant le 25 ans. Donc, faut rappeler aux gens que ces gens-là sont quand même sentencés à vie quand ils sont déclarés coupables de meurtre, soit le crime le plus grave au sens du code criminel, mais pourront, après 25 ans de détention, donc entre les derrière les barreaux, demander une libération conditionnelle. Et rappelons encore là qu'après 25 ans, ça ne veut pas dire que c'est automatique et qu'ils seront libérés. Il faut avoir un plan de sortie. Généralement, ces gens-là vont passer par des maisons de transition, donc ne seront pas nécessairement libres comme l'air non plus. Mais on voit l'effet des dossiers qui ont été menés en appel, évidemment acceptés, puisque ça a été jugé inconstitutionnel. Donc, un effet rétroactif sur toutes les affaires qui ont été jugées avant Bissonnette.
Nada, dans le milieu judiciaire, on s'imagine que les juges, les avocats aussi, là, c'est des intouchables. On comprend que ils doivent être protégés, ils doivent pas être victimes de menaces. Ils ont affaire avec parfois les pires criminels. Et là, dans le dossier du convoi des camionneurs, un juge a reçu des menaces qui ont nécessité des interventions policières.
Oui, alors rappelons-le qu'il y a déjà eu même une intervention de notre honorable juge de la Cour suprême, le juge Wagner, qui mentionnait que depuis la pandémie, depuis que les gens sont derrière leurs écrans et que les réseaux sociaux, finalement, ont fait en sorte que les commentaires pullulent de partout, certains peuvent partager leur opinion, avoir cette idée-là que la liberté d'expression permet de tout dire. Mais là, un des manifestants aurait dépassé la ligne, un manifestant qui aurait passé devant ce juge-là, qui aurait traité de sa cause. On ne donne pas de détails puisqu'on ne veut pas identifier le juge en question, mais on sait que ça a trait avec les manifestants des convois des camionneurs qui auraient finalement menacé le juge puisqu'il aurait porté atteinte à son intégrité physique. Donc, il l'aurait menacé physiquement de lui porter atteinte tellement que le juge a craint pour sa sécurité, a changé ses codes de sécurité et en est venu à appeler la police pour porter plainte.
Est-ce que au niveau judiciaire, c'est plus grave de menacer un juge parce que justement c'est tout le processus judiciaire là, que ça peut déstabiliser versus quelqu'un qui intimide moi là ou quelqu'un dans la rue. Est-ce qu'il y a une différence?
Mm-hmm. Ben c'est sûr que dès qu'on menace quelqu'un, on reste quand même un être humain, ça devient quand même une infraction contre une personne. Donc, au sens du code criminel, il y a un niveau de gravité, mais oui, ça peut être plaidé comme un facteur aggravant lorsqu'on attaque, par exemple, un policier, quelqu'un qui représente l'autorité et surtout une certaine neutralité de notre autorité, comme ce que les juges peuvent représenter. Et il y a eu, dans le passé, malheureusement, même des collègues en défense qui ont fait face à des menaces, des cocktails Molotov dans les bureaux, et ça a été tranché dans les jugements comme quoi C'est une atteinte même à la justice d'attaquer un officier de justice comme ça et effectivement considéré comme un facteur aggravant. Donc, sur sentence, ça peut peser dans la balance.
Est-ce que tu sais si ça arrive souvent? Parce que, bon, t'es dans des cours, toi-même, qui doit faire face dans des cas avec de nombreux criminels. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent de voir des gens dans tout ce personnel-là qui se font menacer?
Donc, c'est sûr qu'on est dans un milieu, effectivement, Vincent, où les gens font face à des accusations souvent très sérieuses. Comme je le dis à tous mes clients et à toute personne qui me pose souvent la question, « Mon Dieu, tu dois être stressé. Les gens autour tes clients, t'as pas peur d'eux.
Ouais. »
Ben, c'est sûr que ça prend du guts, là, en ce sens qu'on accepte d'être devant des gens qui sont présumés avoir commis des crimes quand même assez graves. Des fois, des crimes contre la personne qui peuvent donner des frissons, surtout quand tu peux voir la preuve retenue contre ton client. Mais de prime abord, tous ces jugements-là, je laisse ça derrière moi, puis je le dis souvent à mes clients, j'ai pas ce rôle de trancher si c'est une bonne ou une mauvaise personne. Et j'établis souvent un lien de confiance. Puis c'est de rappeler aussi à l'individu devant moi qu'il a besoin de moi. Je suis pas là pour être contre lui, au contraire. Mais est-ce que j'ai déjà vu des clients être insatisfait, pas content, voir des collègues se faire attaquer, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, des histoires de cocktails Molotov ou de menaces ou de graffitis. Oui, on en voit, mais pour être bien honnête, là, c'est quand même assez rare. Là. Il y a quand même un certain respect qui est établi entre les clients et les officiers de justice.
Il y a quand même, en terminant avec la pandémie, puis là, le convoi des camionneurs, des gens qui semblaient un peu se sentir à l'abri d'accusations ou tout ça, qui se foutaient vraiment de la justice, qui se faisaient arrêter à répétition. On le voit là avec Tamara Litch, une des femmes qui est derrière ce convoi. Exact. Une des instigatrices, c'est le mot que je cherchais, du convoi des camionneurs, qui là a été accusée de bris de conditions. Donc, on voit que dans certains cas, on a beau se faire accuser, ils s'en foutent là, et poursuivent. Mais à un moment donné, la justice les rattrape.
Absolument. Puis il va les rattraper en les maintenant détenus, par exemple, si jamais ils font face à des bris de conditions suite à des ordonnances de la Cour. Puis je pense que c'est un message important à envoyer à tous et à toutes. On a cette liberté d'expression sur le territoire. On est très chanceux de pouvoir exprimer nos opinions, nos idéologies comme on veut, mais il y a une certaine limite à ça, et ça, il faut que les gens le comprennent. Et là, justement, ce week-end, il va y avoir d'autres manifestations à Ottawa. Les autorités seront prêtes à les recevoir. Alors, faut rappeler là qu'il y a quand même de la loi à respecter, un ordre à respecter également. Et donc, la façon dont les manifestants vont agir sera tenue en compte. Et si parmi eux, certains ont déjà fait face à des accusations ou des accusations en cours, peuvent revenir devant les tribunaux. Et là, très certainement que les juges vont considérer leur passé judiciaire pour, par exemple, leur permettre une remise en liberté ou non. Et au niveau de la sentence, avoir des sentences plus sévères.
C'est dit. Merci beaucoup, Nada. À demain.
Merci. À demain.
Salut. Maintenant.